Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec ce soir Robin Renucci. Il était venu nous voir dans ce même studio de France Culture il y a 2 ans. À l'époque, il avait martelé au micro son obsession, aller à la rencontre de tous les publics de France, où qu'ils se trouvent, c'est-à-dire partout. Aujourd'hui, il se pose pour plus d'un mois dans un bois, tout près de Paris. C'est à la Cartoucherie de Vincennes, au théâtre de l'Épée de Bois, que les Tréteaux de France, cette institution itinérante qu'il dirige depuis 2011, attend ses spectateurs. Robin Renucci mène de front plusieurs vies, le jeu, la mise en scène, la direction d'une maison, avec toujours ce même viatique. Le théâtre et le théâtre d'art est à partager avec le plus grand nombre. Il est à nos micros jusqu'à 21h.
Robert Renucci, c'est un amateur. Ce n'est pas un professionnel de la profession. C'est avant tout quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui aime les gens, son public, les comédiens qui jouent avec lui, les textes qu'il lit. Et je pense qu'il incarne vraiment tout ce dont il vient d'ailleurs, qui était la culture de Jean Vilar et l'éducation populaire. Et c'est un homme qui anime un formidable programme encore qui s'appelle L'Aria. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois et il s'y passe des choses absolument incroyables. C'est un grand homme de théâtre qui considère le public comme amateur comme lui, voilà. Et qui l'élève au-dessus de lui-même, toujours. Robin Renucci, c'est aussi quelqu'un qui est venu donner au Théâtre de la Colline, dans le cadre d'Arsène Israelis, une conférence formidable sur ce que c'est que prononcer un texte, dire un texte, ce que c'est que la langue, parce que c'est un homme qui a une conception de la culture, de l'art, du théâtre, de la philosophie, très politique, qui voit tout cela comme étant une nécessité pour le développement de l'humanité, pas simplement pour le monde de la culture lui-même, voilà. Et donc nous sommes très complices dans ces actions que nous menons ensemble assez souvent en direction de la cité.
Bonsoir Robin Renucci.
Bonsoir.
Alors on vient d'entendre sur la musique de Last Shadow Puppet, un de vos complices, il s'agit du philosophe
Bernard Stiegler,
vous me l'enlevez de la bouche, avec qui en 2014 vous aviez coécrit un livre d'entretien qui s'appelait S'élever d'urgence. Il était publié aux éditions La Tribu. Complicité, j'imagine, précieuse comme celle que vous avez également nouée avec le metteur en scène Christian Schiaretti, qui vous dirige dans l'École des Femmes, un spectacle qu'on peut voir actuellement au Théâtre de l'Épée de Bois, un des nombreux spectacles, parce qu'il va y en avoir bien d'autres. Cette complicité, est-ce qu'elle aime de l'homme de théâtre que vous êtes, Robin Renucci, à penser mieux, penser large, penser plus loin, penser plus ample?
Oui, et à converser en fait avec nos concitoyens, c'est-à-dire que l'art retrouve dans notre esprit une place d'échange, de dialogue, de volonté d'égalité également entre ceux qui reçoivent et ceux qui offrent, et ce don et ce contre-don permanent. On peut sortir de la figure habituelle binaire du spectateur plus ou moins passif, très souvent considéré comme un consommateur, et de celle de l'artiste qui est le créateur qui va proposer et montrer quelque chose. C'est tout à fait différent de montrer et de donner à voir, donner à entendre des fictions qui permettent de mieux comprendre le monde. Quand Bernard Stiegler met l'ensemble de ce que nous sommes, le public, nous-mêmes, sous le terme d'amateur, c'est celui qui aime aimer, il faut l'entendre dans cette forme langagière puissante qui consiste à ce qu'avant tout nous soyons dans un acte de philia, pourquoi pas d'amour les uns envers les autres.
Lorsque vous avez décidé, Robin Ranucci, de faire le choix du théâtre, parce que c'est un choix que vous avez clairement fait en 1986-87, alors que vous étiez en train de percer au cinéma et de devenir ce qu'on aurait pu appeler une star, vous veniez de tourner Escalier C de Tachéla, Jean-Charles Tachéla, et vous avez décidé de refuser les propositions cinéma pour aller jouer avec Antoine Vitez dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, Le Soulier de Satin. Est-ce que c'est parce que vous pressentiez justement ce gain intellectuel, ce gain émotionnel, ce gain psychologique, aussi mental, qu'allait vous apporter le théâtre et que sans doute le cinéma ne vous apporterait pas de la même manière ?
Voilà, je ne voudrais surtout pas minimiser le cinéma et les arts visuels en général. C'est simplement que à ce moment-là, venant avant le conservatoire et avant ces moments d'éclosion, on va dire que vous avez nommé proche du vedettariat, pour moi, c'était de ressentir que ça n'était pas à la même hauteur de dialogue avec les gens, tout simplement, et que le fait de devenir plus ou moins un produit dans une industrie commerciale importante, majeure et très artistique par ailleurs, faisait que je n'étais pas tout à fait à ma place. Donc c'est pas tant courageux que cela, c'était surtout me sentir là où je suis le plus heureux, c'est-à-dire être en direct, en train de dialoguer avec des humains à 310 mètres à la seconde, qu'un mot fasse une éclosion dans une oreille, donne une image, donne à voir, et que nous soyons ensemble en train de vivre quelque chose. J'adore toujours faire du cinéma, de la télévision bien entendu, mais cela reste pour moi un endroit en général privilégié que le lieu symbolique du théâtre et peut-être un des seuls espaces de liberté que nous ayons encore aujourd'hui.
Être le plus heureux, Robin Ranucci, chez vous, c'est aussi être le plus cohérent, parce que vous parlez beaucoup dans un livre d'entretien que vous avez écrit avec Isabelle Franck, qui s'appelle « Tous ces hasards qui n'en sont pas », il est paru aux éditions Presse de la Renaissance, de la disproportion entre ce que aujourd'hui un travailleur au SMIC et ce qu'on gagne au cinéma, de l'argent, de cette masse d'argent qui tout à coup arrivait dans vos mains et qui vous embarrassait. Et d'ailleurs, il y a un autre passage où vous parlez, j'y fais référence parce que vous travaillez aussi au conservatoire, vous parlez du fait qu'un élève au conservatoire coûte entre 30 et 35 000 euros sur ses 3 ans de formation et que si l'élève à la sortie du conservatoire s'en va dans le privé pour faire de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a une éthique quand même qui est aussi liée à l'idée du théâtre chez vous.
Oui, j'aime l'idée du service public, oui. J'aime l'idée de pouvoir avoir une organisation collective de la cité autour de cette question de l'art et de la culture. Et en effet, c'est le privé et les intérêts personnels voilà, me semblent devoir primer après l'intérêt général. Et surtout lorsqu'on a bénéficié d'une formation qui coûte à tous et qu'on s'élance immédiatement vers le vedettariat et vers le monde du privé, bien, il y a quelque chose que je trouve qui peut être légèrement modifié. D'une part parce que les élèves du conservatoire, et c'est le cas aujourd'hui avec Claire Lannes, puisque vous en parlez, que j'y suis aussi professeur, sont de plus en plus issus de la diversité de notre pays. Donc il y a une chance plus importante aujourd'hui de rentrer au conservatoire et de représenter le peuple. Et je crois que notre peuple, là, réuni au conservatoire en partie, peut ensuite avoir envie de rendre de là où il vient quelque chose.
Alors, vous voulez entendre, vous vouliez, on va essayer de les entendre dans cette émission, les voix d'Antoine Vitez et de Jean Villard. On va essayer de les passer, mais je voulais vous faire entendre une autre voix. Et elle compte aussi, elle a aussi compter pour vous à un moment donné, quelque temps avant l'ère Jack Lang, en 1979, un homme qui lui aussi s'est trouvé sur votre parcours, vous a dirigé et il prenait la parole. C'est Roger Planchon, l'un des artistes de la décentralisation, qui a fait de Lyon et du TNP l'autre lieu, finalement l'autre capitale du théâtre. Et voici ce qu'il disait en 79 des hommes politiques et de leur rapport à la culture.
Je pense que le personnel politique est un peu devant le problème culturel à se poser des points d'interrogation, se demandant ce qu'il faut faire. Alors où ils sont de très mauvaise foi, ils disent comme ceci, il faut s'occuper de la culture, mais ils ne savent pas exactement pourquoi, ou bien généralement ils s'en occupent pas, ils disent même pas il faut s'en occuper. Ils se rendent compte que c'est pas un argument électoral, que ça ne sert à rien, que c'est pas important. En même temps, évidemment, ils savent très bien que le monde change, que de plus en plus il y a des gens, si on arrive un jour à travailler un peu moins, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment on va occuper les gens? Est-ce que ça va être que du divertissement? Ou est-ce qu'il faut essayer de monter le niveau de ce divertissement? Donc, qu'est-ce que ça signifie en définitive la culture? Et là, je pense que le problème va se poser véritablement. Et je suis à la fois enfin très optimiste, je ne sais pas pourquoi. Et par ailleurs, je suis inquiet parce que je vois bien que le personnel politique est en train de changer. Et que ceux qui sont maintenant au pouvoir sont des gens qui ont une idée en tête, l'efficacité, la plus grande efficacité possible. Alors ils ont les yeux comme ça fixés sur la ligne bleue de l'expansion économique et rien d'autre. Évidemment, c'est très triste. Par exemple, il y a quelques années, dans les ambassades, les gens qui étaient là, eh bien, qui c'était? C'était les ambassadeurs, c'était Claudel, c'était Saint-Jean-Père, c'était Paul Morand, enfin, des écrivains, des poètes, etc. Aujourd'hui, qui est dans les ambassades? Eh bien, il y a très souvent c'est des gens qui ont lu les revues économiques et qui sont là et qui disent ce qui est important pour la France, c'est de vendre des machines agricoles, par exemple. Mais présenter un grand auteur français, montrer la peinture d'aujourd'hui française, montrer, faire entendre la musique d'aujourd'hui, non, ça, ça paraît pas un combat important. Évidemment, je pense le contraire, inutile de vous le dire.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Pas mal.
Peu de choses ont changé, en fait.
Hein,
quelques décennies après.
Il a quasiment 40 ans, ce...
Oui. La France aujourd'hui vend deux fois plus d'armes que l'année dernière, je crois, quelques 17 milliards d'euros. La préoccupation, elle est davantage, bien entendu, économique. Et quand on parle d'économie, on ne parle que d'économie financière. Mmh. Et ce dont parle Planchon intrinsèquement, c'est l'autre, toutes les économies. Hein, les économies du vivre correctement ensemble et de partager des choses ensemble et de s'élever, si possible, ensemble dans une pensée qui fasse que nous soyons moins guerriers nationalement et internationalement. Donc la culture qui produit de la paix, la culture qui produit de la santé, de l'intelligence, c'est pas celle que l'on imagine quand on veut faire du profit, bien sûr.
Et le théâtre qui émancipe, alors ça vous y croyez dur comme fer, Robert Annucci, le théâtre comme facteur d'émancipation?
Oui, l'émancipation qui consiste à penser par soi-même, à avoir un esprit critique, à avoir du discernement, à mettre à distance. La fiction sert à cela. À partir du moment où on est face à une fiction qui peut être terrible, moi j'aime bien entendu le théâtre qui donne de la joie. Hein, c'est pour moi très important d'unir, de rassembler, de donner de la joie. Mais on peut raconter aussi des histoires qui permettent de se dire « Ah non, nous ne voulons pas de ça dans la vie ». Donc lorsqu'on voit quelque chose sur la scène et qu'on ne veut pas de cela dans la vie, ça nous fait réfléchir et ça nous transforme. Donc ça nous fait recevoir le monde en différenciant fiction, réalité, compréhension. Cette mise à distance nécessaire chez l'enfant, par exemple. Donc plus nous évoluons, plus l'étau se resserre dans ces domaines où la frontière entre fiction et réalité devient de plus en plus ténue. Et c'est une perte, disons, de conscience de soi et du monde. Et nous sommes dans des outils qui sont des outils industrialisés, qui sont des outils culturels, mais qui sont des outils toxiques, hein, qui font perdre cette notion de fiction et de réalité, mettre à distance.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire des Tréteaux de France, qui est l'institution, c'est un établissement public, service public, un CDN, service public, Centre Dramatique National, itinérant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire de ces Tréteaux de France, et je reviens vers ce que disait Planchon, qu'ils sont ambassadeurs eux aussi?
Oui, ils sont dans la conversation avec nos concitoyens. Ils doivent transporter une pensée, une parole, celle des auteurs. Je suis très attentif à la question des auteurs aujourd'hui, des nouvelles écritures, des auteurs contemporains d'aujourd'hui, et qui nous permettent de mieux comprendre et d'écrire notre monde à travers la fiction, encore une fois. Donc ils sont ambassadeurs de cette pensée de partage et d'échange qui fait que nous comprenons mieux ce que nous faisons ensemble. Et aller là où le théâtre n'est pas, qui est la mission donc des Tréteaux de France, disons dans des jardins non arrosés, c'est ce que nous, là où nous passons la plupart de notre temps, ce qui a d'ailleurs justifié le fait que pour confirmer cette exception, il fallait quelque chose qui nous amène à être un peu auprès des franciliens qui ne nous voient pas. Eh bien, il est important en effet d'aller là où le théâtre n'est pas, partout. Ce qui ne veut pas dire de la même manière que Jean Danet qui a fondé l'aventure ou Marcel Planchon qui l'a...
Marcel Maréchal
qui l'a continué. Marcel Maréchal qui a continué l'aventure qui faisait que la France était peu équipée. Aujourd'hui, la France est très équipée. Donc, nous allons en fait partout, à la fois dans un éloignement qui peut être géographique, mais aussi mental. Et là, il y a beaucoup de travail dans l'éloignement des gens d'eux-mêmes, au fond, hein, dans ce que j'évoquais, de mise à distance de soi ou de capacité à avoir un esprit critique, par exemple.
Alors, pour parler du présent, il est souvent bon de repasser par le passé, Robert Annucci, et on va effectivement écouter, comme vous le souhaitiez, la voix de Jean Villard, le fondateur du Festival d'Avignon. Il s'exprimait en 1966 sur le nécessaire déploiement de la manifestation. Donc il annonce dans cette interview à laquelle il répond qu'il va doubler le nombre de représentations et qu'en plus de la troupe du TNP, il va accueillir et Béjart et encore Roger Planchon. Je vous propose qu'on l'écoute s'expliquer sur ça.
J'ai pensé qu'il fallait préparer l'avenir et que profiter de cette réussite, justement, ne pas attendre les mauvaises heures, mais au contraire, profiter d'une réussite qui est confirmée maintenant depuis 5 à 6 ans et est entière et totale. parle au moins en ce qui concerne le rendement public et le nombre de spectateurs, profiter donc de cette situation. Il se peut qu'il y ait une crise du théâtre, mais étant artiste et directeur de théâtre depuis maintenant près de 25 ans, j'ai toujours pensé qu'il y avait crise. En me levant tous les matins, je me disais, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui n'allait pas bien? Évidemment, avec l'égocentrisme des acteurs, c'est à ma compagnie à laquelle je pensais. Je suis tellement habitué aux crises du théâtre et aux miennes personnellement que je finis par ne plus y croire.
Il n'a jamais baissé les bras. Le fait est, Villard n'a jamais baissé les bras.
Il a anticipé le changement des années 68. Il l'a pensé avant, en fait, avant les autres. Il a été d'ailleurs inculpé à tort, évidemment. Hein, mais il avait préparé ce changement.
Mais en même temps, la combativité, pour quand même souvent recevoir des hommes et des femmes de théâtre, est quelque chose qui est chevillé, j'ai l'impression, à ces artistes-là. Il faut être combatif pour continuer à faire le travail qu'on fait alors qu'on a moins d'argent. Il faut être combatif pour se battre pour l'intermittence, pour se battre pour la parité, pour se battre pour le maintien des subventions. Et puis aussi pour que ne soient pas jetés aux orties Molière, Racine, Balzac, Victor Hugo.
Et tous ceux, toutes les femmes et tous les hommes qui ont avant nous tracé une route, inventé, notamment tous ceux et celles de l'éducation populaire qui ont, derrière Jeanne Laurent et ses politiques des années 1959, construit ce que nous sommes et l'exception culturelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est enviée du monde, par le monde entier. Donc ne pas oublier en effet ce qui a été créé et le continuer, le prolonger, sachant que les questions sont toujours les mêmes. Les questions, c'est l'élargissement du public, c'est comment faire que chacun y est droit, pour faire court. C'est la question de vivre dans un théâtre qui est lié à son époque, qui représente le monde d'aujourd'hui. Donc la question des auteurs, la question de la pensée contemporaine, de comprendre les technologies qui sont en train de d'éclore et qui parfois nous éloignent du simple rapport de la parole, du langage de l'un avec l'autre et du dialogue. Donc ces questions, elles se posent, mais les réponses ne sont jamais les mêmes. C'est pas la même chose pour Jean Villard, c'était pas la même chose pour Copeau, pour Dulin, pour Jouvet dans les années 20, et c'était pas la même chose pour Antoine Vitesse en 75 ou 80 lorsqu'il était à Ivry. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes questionnements que nous avons. Comment élargir le public, comment nous parler, comment faire qu'un spectateur ne sorte pas d'un lieu en disant ça ne me parle pas. Donc il y a parfois une responsabilité des artistes, mais aussi une façon d'amener le public à être participant réellement et à savoir que le théâtre est un objet d'imaginaire dont nous avons besoin, comme de l'eau et du pain.
Et de l'électricité, disait aussi Jean Villard, le théâtre comme service public. Comme service public. Qu'est-ce que vous répondez, Robin Renucci, à ceux qui disent, et c'est une des attaques qu'on peut entendre contre le théâtre service public, que c'est un art élitiste qui pratique l'entre-soi. On parle beaucoup de ça quand on parle de théâtre d'art. Si on veut l'attaquer, on l'attaque par ce biais-là. C'est assez fréquent.
Oui, bien sûr. Bah, c'est un raccourci très important puisque c'est une société du divertissement qui a pris le dessus et une façon de mettre l'économie au centre. Donc, dès lors que l'on fait quelque chose qui est un moment d'élévation, on va penser qu'il n'y a que ceux qui ont déjà goûté à cette source-là qui sont désirants de cela. Moi, je suis très attentif à ce que ça se passe à l'école, c'est-à-dire dans l'éducation artistique et culturelle depuis l'école. Là, nous sommes face à une réalité qui est que sur les mêmes bancs scolaires, la France entière est assise dans sa diversité, dans toutes ses différences et que c'est une source formidable pour les uns et pour les autres. C'est là que ça commence. Donc, dès qu'on rejoint la question culture et théâtre avec l'éducation, on arrive à faire davantage le consensus. C'est dès lors que l'on considère des spectateurs qui sont déjà émancipés, disons, qui ont une capacité à comprendre, à recevoir, avec d'autres qu'on laisse à la porte, qui restent dans l'intimidation du lieu, que se pose le problème et qu'on va dire ça n'est fait que pour ceux qui savent déjà.
Quand vous démarrez l'aventure que vous démarrez en Corse, il y a maintenant deux ou trois décennies, Aria.
Bientôt deux, oui.
Dans le lieu de votre enfance, puisque vos grands-parents et votre mère étaient, vos grands-parents habitaient là-bas et votre mère est née là-bas, Olmi Capella. Oui. Vous démarrez ex nihilo. Il n'y a rien. Il n'y a que les champs, il n'y a que la pierre, le soleil, ça doit être magnifique, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de salle, personne d'ailleurs ne fait de théâtre. Et vous bâtissez ce qui aujourd'hui est un théâtre en dur. Vous êtes arrivé à ça quand même, après être passé par l'institution de stage tous les étés, vous avez accueilli les amateurs, les professionnels, mélangé tout ça. C'était un acte totalement politique de faire ça, Robin Renucci.
Oui, c'est profondément...
C'était aller faire la preuve que là où il n'y a pas de théâtre, on peut inoculer le virus du théâtre.
Voilà, profondément, c'est un acte politique, mais dans un acte extrêmement partagé, évidemment. Et quand vous dites il n'y a rien en matière d'équipement, c'est-à-dire les politiques culturelles nationales ne sont pas allées jusque-là. La Corse reste la seule région de France avec la Picardie qui n'est pas équipée institutionnellement d'outils comme une scène nationale ou un centre dramatique. Mais au fond, dans la campagne, il y avait ce que vous dites rien, qui est en fait tout pour moi. Il y a des humains qui sont encore là, qui sont accrochés à cette terre. Il y a des traditions, il y a des habitudes du travail et des savoir-faire qui font que les gens savaient très bien labourer leurs champs, élever leurs animaux et récolter, tout autant que jouer, chanter, improviser, notamment vocalement. Donc l'essentiel est là. Et c'est à partir de cette qualité d'existence, peut-être en train de péricliter, sans doute, par le peu d'habitants, que j'ai construit. C'est-à-dire, on a fait ensemble quelque chose qui était réinventer ces outils à partir d'un existant traditionnel, au fond. C'est-à-dire cette rupture entre culture populaire et culture élitiste des années 59, sous le ministère d'André Malraux, n'avait pas eu lieu là-bas. Donc, il restait l'essentiel qui est la volonté des hommes de construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai qu'avec les élus, on ne fait pas tout seul, bien entendu. C'est impossible. Je n'ai pas construit un théâtre. Simplement, des élus se sont unis d'une manière intercommunale. Puis, les fonds sont venus de l'Europe, de l'État, et on a construit un magnifique théâtre aussi balbutiant aujourd'hui qui fonctionne toute l'année dans le registre de la transmission de la formation et d'éducation populaire.
Vous ne l'avez pas construit, mais enfin, c'est vous qui avez lancé l'idée.
Tout à fait. Alors, ça, je suis toujours heureux quand on le nomme parce que c'est la vérité vraie et qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que des élus pensent qu'ils ont inventé un projet qui serait mis à disposition d'une manière aléatoire. Non, l'aventure est partie de l'aria.
Là où il y a le plus de joie, comment croire que je suis absente? Là où il y a le plus de joie, c'est là qu'il y a le plus poèse. Je veux être avec toi dans le principe. Je veux épouser ta cause. Je veux apprendre avec Dieu à ne rien réserver, à être cette chose toute bonne et toute donnée qui ne réserve rien et à qui l'on prend tout. Prends Rodrigue, prends mon cœur, prends mon amour. Oh, ce Dieu qui me remplit. La force par laquelle je t'aime n'est pas différente de celle par laquelle tu existes. Je suis unie pour toujours à cette chose qui te donne la vie éternelle. Le sang n'est pas plus uni à la chair que Dieu ne me fait sentir chaque battement de ce cœur dans ta poitrine qui, à chaque seconde de la bienheureuse éternité, s'unit et se resépare.
Oh, parole au-delà de la mort et que je comprends à peine. Je te regarde et cela me suffit, ô prouesse, ne t'en va pas de moi, reste vivante.
On fait un petit retour en arrière, Robin Ranucci par Le Soulier de Satin, Ludmila Mickaël et Didier Sand, c'était en 87, je le disais tout à l'heure. Parce que dans le livre, Tous ces hasards qui n'en sont pas, vous dites un truc absolument incroyable. En parlant de vitesse, vous dites c'était un homme de sensibilité, doté d'une immense intelligence, mais on le dévalorisait en le traitant d'intellectuel.
Oui, c'est monstrueux. J'ai toujours trouvé incroyable qu'on puisse dire de quelqu'un « Oui, mais lui, c'est un intellectuel. » Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un humain qui peut s'élever au-dessus de la pulsionnalité, qui est capable de symboliser, d'être dans cette question de l'imagination, de l'invention du monde et de la pensée du monde. Un intellectuel me semble quelqu'un de très noble, et Rimbaud disait très bien que l'homme à la plume valait l'homme à la charrue, et c'est très important qu'on ne dévalorise pas, d'ailleurs c'est un peu toujours, sont toujours les mêmes qui disent ce mot de cette façon avec cette morgue, ce sont ceux qui sont des populistes au fond.
Est-ce que vous, à la tête des Tréteaux de France, Robin Ranucci, vous faites un travail de militant, de militance? Parce
oui,
que militant,
crois.
Vous l'étiez jeune, vos parents l'étaient. Est-ce que vous continuez au fond une tradition familiale?
Oui, oui, je suis attentif à ce que le public soit œuvré par les œuvres et que nous lui parlions réellement. Et le public reste en général après le spectacle, a envie de parler aux comédiens, a envie de parler du spectacle. Quand je demande très souvent combien de personnes ne sont jamais venues au théâtre, je suis surpris de voir 10, 20, 30 personnes qui ne sont jamais venues au théâtre dans nos spectacles. Donc à chaque fois, je me dis que c'est gagné, puisque cet élargissement du public dont nous parlons tant, il est réussi, qu'il y a ce désir de dialogue, cet échange. Donc la militance, elle est là, elle est de reconstruire entre les spectateurs et les artistes quelque chose de l'ordre du nécessaire, et les auteurs qui sont les viatiques, le vecteur de cet imaginaire que nous transportons, qui nous transporte, qui nous émeut et qui fait que nous sommes modifiés par l'œuvre théâtrale à chaque fois.
Alors je le disais, là vous êtes actuellement en scène dans l'École des Femmes, mise en scène par Christian Schiaretti, et après vous allez vous signer la représentation du Faiseur de Balzac, tout ça en allant faire des sauts en Corse pour préparer le festival, enfin les rencontres cet été, en passant par le Conservatoire, en montant au bureau des Tréteaux de France là-haut dans le 19e arrondissement. Comment est-ce que vous faites ? Robin Renucci.
Alors j'ai la chance de dormir peu, il faut aussi savoir se reposer, bon, mais j'arrive avec quelques décennies derrière moi à tenir le coup, à être comme un grand sportif, je dirais, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on fait, et puis à tenir avec une équipe très solide. J'ai autour de moi des gens qui sont très très solides et qui savent exactement se passionner pour ce projet, qui est un très beau projet, puisqu'il consiste à la fois à construire des œuvres et à les porter aux autres, mais aussi à partager quelque chose d'autre que le simple rapport de la monstration. Lorsqu'on est dans la transmission, dans la formation, dans l'éducation populaire, il y a une quantité de possibilités qui résultent, voilà, de cela, et avec le spectateur, c'est magnifique ce qui se passe. Faire des ateliers de lecture à voix haute, ça ressource. Faire des ateliers de pratique théâtrale avec des publics qui ne sont pas habitués à cela, ça ressource. Donc cet ensemble-là est important. Être professeur au conservatoire, c'est être tous les jours devant une jeunesse de 20 à 25 ans qui va être le flambeau de notre pays sur les questions théâtrales. Donc redonner un sens à toutes ces choses-là me semble nécessaire. Dans l'atelier du conservatoire, c'est très important. Je suis beaucoup sur les questions de langage, d'œuvres d'un théâtre d'art que vous nommiez tout à l'heure, où le plateau nu de Copeau et le texte qui donne à voir reste encore un des endroits de liberté que nous avons à gagner et qui est nécessaire. Nous sommes abreuvés d'images, abreuvés d'écran, abreuvés de filtres. Donc le simple fait de voir un œil qui voit une image, une oreille qui entend, c'est un ressourcement formidable. On est largement gratifié de nos efforts.
Est-ce que vous apprenez à vos élèves du conservatoire ou à tous ces amateurs qui viennent s'essayer au théâtre votre propre technique d'apprentissage des textes? Parce que ça, c'est extraordinaire dans ce bouquin, Tous ces hasards qui n'en seront pas. Vous racontez comment vous apprenez un texte. Vous racontez que vous chiffrez les textes. Et ouais, c'est assez génial, hein. Par exemple, là, j'ai avec moi Phèdre. Je vous piège pas, j'espère que je ne vous piège pas. Ouais. A, cruel, tu m'as trop entendu. A, point d'exclamation, cruel, tu m'as trop entendu. Comment fait Robin Renucci pour apprendre ce vers? Il le chiffre.
Voilà, déjà il le lit. Il lit A, cruel, tu m'as trop entendu. Donc on voit qu'il ne reste que 9 syllabes dans cette histoire. Ça veut dire qu'avant, il y en a eu qui étaient de l'autre personnage, qui est Hippolyte.
C'est vrai, j'en ai coupé. Voilà. J'ai coupé la partition d'Hippolyte, je l'avoue.
Donc s'il ne me reste que ce A, qui fait donc un A, cruel, il fait 2 syllabes. A, cruel, tu m'as trop entendu. On va avoir 9 syllabes qui suivent. Donc il sera 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et le fait de chiffrer vous permet de vous remettre en mémoire quasiment immédiatement des textes que vous avez appris il y a longtemps.
Oui, bah d'une part la rime joue beaucoup, hein, puisque vraisemblablement la rime précédente était en U. Hein. La suivante qui dit « je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur », il faut la laisser d'un bloc, puisque « je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur », ça fait 12 syllabes. Si je disais simplement « je t'en ai dit assez », ça arrêterait le sens. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur, font 12. Et cette méthode, en fait, c'est celle de Michel Bernardi, c'est bon de la rappeler, qui était professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique.
On se quitte, Robin Renucci, merci beaucoup.
Merci
une musique,
à vous, Joël.
Par une musique que vous avez entendue, c'était dans la cour d'honneur en 1988, c'est Prince. Et ça ouvrait le spectacle de Patrice Chéreau, Hamlet, dans lequel vous étiez.
C'est vrai.
Et oui. Je rappelle que la grande escale des Tréteaux à Paris s'est à l'Épée de Bois, au cœur de la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 2 juillet. On peut voir actuellement l'École des Femmes, mise en scène par Christian Schiaretti, avec vous dans la distribution. Et puis du 15 au 2 juillet, ce sera le Faiseur de Balzac, mis en scène par vous, Robin Renucci. Et puis tout au long du mois, d'autres représentations, des ateliers, des rencontres, bref, une vie de théâtre à la cartoucherie de Vincennes. Je rappelle aussi la parution de ce livre, Robin Renucci, Tous ces hasards qui n'en sont pas, coécrit avec Isabelle Franck, journaliste, et qui est paru aux éditions Les Presses de la Renaissance. Vous pouvez réécouter et podcaster bien sûr cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquet, Vanessa Nadjar, Dofar Guérid, Joël Gaillot vous salue et vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des fictions présentées par Blandine Masson.
Mais les mères, on les écoute, on les écoute.
There isn't much time. Who screamed?